affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Pour caractériser l'environnement dans lequel nous évoluons, des théoriciens de l'armée américaine ont forgé, voici quelques années, l'acronyme VICA, pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Sans aucun doute, ce concept contribue à décrire le monde dans lequel nous évoluons, où nombre de certitudes se sont évanouies. Mais il met aussi en lumière notre aversion plus profonde pour l'imprévisible, l'incertain, osons le mot, pour l'improbable. Parce que l'improbable nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler. Et pourtant, admettons que l'improbable fait aussi partie de la vie, qui lui donne tout son sel. L'improbable ouvre l'horizon des possibles. L'improbable permet la surprise, et nous aimons tous les surprises. L'improbable, en un mot, est la condition de la liberté. C'est en tout cas le parti pris par un récent ouvrage publié par les éditions d'Il Jacob sous la direction d'Alain Berthoz et de Carlo Ossola et qui, sous le titre « Les libertés de l'improbable », rassemble les contributions de savants de diverses disciplines, des mathématiciens, des généticiens, épistémologues, chimistes, professeurs de littérature, architectes et même un sculpteur, tous réunis pour nous réconcilier avec l'improbable, pour nous dire que l'improbable est aussi au cœur de la création. Pour présenter ce livre et ce mémoire en défense de l'improbable, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Alain Berthoz, qui a donc co-dirigé ce livre. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, neurophysiologiste, professeur honoraire au Collège de France et bien sûr membre de l'Académie des sciences et des technologies également. L'Académie des technologies, ce n'est pas l'Académie des sciences et des technologies, c'est une académie distincte dont vous êtes également membre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais préciser que cet ouvrage n'est à nos yeux pas si improbable que ça, tant il s'inscrit dans vos recherches précédentes. Et je voudrais que vous nous éclairiez là-dessus, et notamment sur les liens entre cette notion d'improbabilité et celle que vous aviez développée précédemment, comme la vicariance ou la simplexité.
Oui, merci de me recevoir. Effectivement, nous vivons dans un monde où la complexité domine, après quelques millions d'années d'évolution, et nous avons un grand problème, c'est de comprendre comment le cerveau humain en particulier, mais de façon générale, les organismes biologiques ont pu se débrouiller dans ce monde si complexe où règne non pas la détermination, mais l'imprévisible. Alors effectivement, j'ai eu l'occasion déjà dans le livre sur la décision, où j'ai essayé de montrer les relations entre l'émotion et la raison, et la façon dont l'émotion contribue à la décision dans ce monde complexe. J'ai aussi eu l'occasion, dans le livre « La simplexité », de proposer un concept qui est issu, lui aussi, des découvertes faites par les organismes vivants, et qui ont trouvé un moyen, dans un monde complexe, de trouver des solutions qui ne sont pas simples, mais qui sont astucieuses, qui permettent d'aller vite et de résoudre les problèmes. Et puis, j'ai ensuite, car la simplexité, ce sont des lois un peu générales du vivant, j'ai insisté dans le livre « La vicariance » sur le fait que chacun d'entre nous est différent et qu'en réalité domine dans cette façon qu'ont les organismes vivants de faire face à la complexité, domine un principe de diversité. Le fait que chacun d'entre nous, chaque enfant, chaque homme, chaque individu, chaque animal, en fonction de ses gènes, nous en reparlerons dans un moment, en fonction de son expérience, va développer des solutions différentes. donc la vicariance et la diversité. Et par conséquent, dans une collaboration depuis plusieurs années, d'ailleurs avec Carlo Ossola, avec qui nous partageons des idées sur cette nécessité de comprendre la pluralité des expressions du vivant dans toutes ses dimensions, depuis la science jusqu'à la littérature, nous avons essayé de réfléchir avec un certain nombre de collègues et amis sur ce concept de l'improbable. Mais je voudrais vous dire aussi que déjà, il y a quelques années, nous avions avec Carlo Ossola et Brian Stock, un grand spécialiste du Moyen-Âge, fait aux éditions du Collège de France un livre qui s'était appelé « La pluralité interprétative ». Donc vous voyez qu'avec Carlo, nous sommes tous les deux, modestement mais avec une certaine ambition, sur ce chemin de la recherche de la façon dont le vivant actuellement et dans son histoire au cours de l'évolution s'est débrouillé pour vivre dans ce monde indéterminé. Donc oui, voilà la tentative que nous avons faite de rassembler quelques collègues sur ce concept de l'improbable. Parce que domine actuellement, comme vous le savez, un formidable succès, on peut dire, des théories de la probabilité, qui se matérialisent d'ailleurs en informatique par toutes les théorie du deep learning en anglais, c'est-à-dire les programmes profonds qui résolvent, d'après les informaticiens, qui résolvent un peu tout, pratiquement. Mais toutes ces approches probabilistes sont basées sur le calcul. Or, l'improbable, c'est ce qui ne se calcule pas.
Alors précisément, ça nous emmène d'emblée, je pense, vers le chapitre que vous avez vous-même rédigé et qui est sur le fonctionnement du cerveau, qui va à l'encontre de beaucoup de nos idées reçues. Parce que c'est ça qui est toujours très intéressant avec vos travaux, c'est que vous bousculez un peu nos idées reçues et les schémas bien ancrés dans nos cerveaux, justement, et dans la société. Vous nous expliquez là que pour s'adapter à l'improbable et à l'imprévu, le mécanisme central, c'est, tenez-vous bien, l'inhibition.
Oui, en effet, l'inhibition est sans doute une des plus grandes découvertes du vivant. Nous ne pourrions rien faire, nous ne pourrions pas agir, décider, jouer de la musique, sauter, comprendre même et penser, si en même temps que des mécanismes neuronaux d'excitation, avec des neurotransmetteurs excitateurs, le vivant n'avait pas mis au point, je ne vais pas dire découvert, mis au point, des mécanismes inhibiteurs. Nous savons qu'au niveau de la synapse, il y a des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des substances qui assurent la transmission dans le cerveau, qui sont le GABA, la glycine, c'est un joli nom, un peu poétique, mais ce sont des transmetteurs qui ont leurs récepteurs et qui, entre les synapses, permettent, en collaboration ou en compétition avec l'excitation, de choisir, de faire en sorte que les commandes données par le cerveau vont être actives ou non. Et cet équilibre entre des mécanismes neuronaux inhibiteurs et des mécanismes neuronaux excitateurs est à la base de tout notre fonctionnement central. La plupart des grandes zones du cerveau importantes pour le mouvement, mais aussi pour la cognition, comme le cervelet, le cortex, les ganglions de la base, vous savez, qui sont impliqués dans le Parkinson, par exemple, dans ces maladies. La plupart de ces structures sont des structures dans lesquelles l'inhibition et la désinhibition, c'est-à-dire supprimer l'inhibition, sont majeures dans leur fonctionnement. Autrement dit, notre cerveau est pour une grande part fait de mécanismes dans lesquels l'inhibition module, elle règle, elle interrompt, comme je le fais en ce moment. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à cette fonction particulière qui est souvent mal connue, parce qu'en même temps, c'est dans toutes les structures de notre cerveau, jusqu'au cortex frontal, celui qui aide à prendre des décisions, que cet équilibre nous permet aussi d'être créatifs. C'est-à-dire, en particulier, justement, de faire face à l'arrivée d'un événement improbable. Si nous voulons traverser la rue et qu'une moto, une trottinette survient, eh bien, c'est l'inhibition qui nous permet pas seulement de bloquer notre mouvement, mais en même temps d'aller demander à notre cerveau d'aller chercher d'autres solutions et de mettre en jeu d'autres mécanismes dans notre répertoire qui nous permettent de trouver une solution, d'agir différemment. Vous voyez, c'est pas seulement l'inhibition n'est pas seulement là pour bloquer l'action. En même temps, les mécanismes inhibiteurs nous permettent d'aller même éventuellement inventer une solution nouvelle.
Mais ce que vous voulez nous dire, c'est que si le monde n'était fait que de choses absolument probables et prévisibles, on pourrait fonctionner tranquillement en pilotage automatique, répéter à l'infini les mêmes réflexes, et tout se passerait très bien, alors que le surgissement de l'improbable nous oblige à un temps de pause qui est mis à profit pour être créatif.
Oui, et en même temps, le fait que dans toutes les structures du cerveau impliquées dans les choix, l'émotion, la décision, la réflexion, etc., l'imagerie, on trouve cet équilibre, ça donne au fonctionnement cérébral une liberté extraordinaire, puisque, au fond, en permanence, il y a cet équilibre entre faire et ne pas faire, penser et ne pas penser, analyser d'une façon et d'une autre. C'est ma thèse, mais c'est la réalité. Toute la flexibilité mentale dont nous disposons est en partie due à cette richesse aussi des mécanismes, parce que j'ai mentionné tout à l'heure le fait qu'il y a le GABA, la glycine, mais en réalité, au cours de l'évolution, chacun de ces neurotransmetteurs a pris des formes multiples, il y a des réseaux multiples, et je vais publier au mois de février, si tout va bien, chez Odile Jacob, un livre qui va décrire l'ensemble de ces mécanismes, mais en même temps d'ailleurs qui va montrer à quel point, ou qui va essayer de montrer à quel point cette créativité donnée par l'inhibition a en même temps conduit, comme vous le mentionnez tout à l'heure, à la possibilité de bloquer, d'inhiber, et même à faire en sorte que des dictateurs puissent imposer des oppressions, etc. Et donc dans ce livre, je vais dépasser le simple rôle du physiologiste pour essayer de montrer comment ces mécanismes ont pu être pervertis au cours de l'évolution pour donner finalement les formes les plus extrêmes aussi de la barbarie et de la difficulté ou de l'impossibilité de percevoir autrui.
Oui, c'est là que vous nous dites que l'inhibition, loin d'être un mécanisme nécessairement oppressif, est aussi le mécanisme qui permet d'adopter un autre point de vue que le point de vue égocentré, qui est justement le plus naturel, voilà, et qui nous vient spontanément.
Absolument. Dans le cas de l'empathie, si on veut vraiment être empathique avec quelqu'un, il faut pouvoir se mettre à sa place, il faut pouvoir inhiber ses propres sentiments. Et effectivement, c'est là une des bases fondamentales de la vie sociale, finalement. Et les déficits de ces mécanismes conduisent aussi à un certain nombre de grandes pathologies.
Alors précisément, du cerveau, on peut passer peut-être très naturellement à la génétique. Alors la génétique, c'est précisément un des domaines où, durant un certain nombre d'années liées à la découverte de l'ADN, on était à fond dans le déterminisme, le sentiment que notre ADN, nos gènes, dictaient nos capacités, voire notre destin, les maladies auxquelles on était éventuellement sujet ou non, et ces craintes existent encore. Vous avez parlé du deep learning, cette méthode consistant à stocker un maximum de données, notamment sur l'ADN des uns et des autres, pour prédire. Donc là, on est vraiment dans le contraire. On a le sentiment, en tout cas lorsqu'on est un béotien en la matière, que la génétique, c'est le contraire de l'improbable.
Oui, alors Lucille Marion-Paul et Edith Heard, dans le livre « Les libertés de l'improbable », ont fait un très joli chapitre dans lequel elle nous donne un petit résumé à la fois de l'histoire de l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui se passe lorsque les gènes doivent, selon l'expression même des généticiens, doivent s'exprimer. C'est-à-dire lorsque les messages qui sont contenus dans les gènes vont être transformés en des fonctions particulières. Et elles nous font une très jolie leçon sur la façon dont ces mécanismes biologiques adaptent en quelque sorte le message génétique aux conditions de l'environnement, à ce qui survient. Et donc effectivement, l'épigénétique, c'est la fin d'une conception trop rigide qu'on a pu avoir du fait que chaque gène donne une fonction et que nous sommes complètement déterminés par nos gènes, point.
Alors de ce point de vue, d'ailleurs, il y a un exemple, si vous me permettez, que je trouve très éclairant. Je me permets de le partager, parce que d'abord, j'ai trouvé dans votre ouvrage, mais aussi parce qu'il m'a fait complètement changer de perspective. Elle rappelle que toutes les cellules de notre corps proviennent d'une cellule unique. Or, l'une va créer l'ouïe, l'oreille, l'autre un œil, le troisième un pied, un nez, que sais-je. Et que donc, c'est bien la preuve qu'il y a une part d'indétermination et de variabilité inscrite dans cet ADN.
Absolument. Mais en plus, ce qui se produit, c'est l'influence de l'environnement. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement le fait que ces mécanismes permettent de choisir à partir d'une même cellule les différentes parties du corps, mais qu'en même temps, la fonction même dans laquelle ces parties du corps ou même les systèmes perceptifs, moteurs, de pensée vont être impliqués, vont dépendre de l'interaction avec l'environnement. Et ça, c'est crucial, car là, nous sommes directement dans ce dont nous parlions il y a un moment, c'est-à-dire le fait que l'environnement dans lequel l'embryon, d'abord, bien sûr, mais aussi le jeune bébé est plongé, est complètement indéterminé et qu'il survient des événements improbables. Et il y a là un mécanisme passionnant, comme le dit Edith Hurd, il y a encore beaucoup à comprendre sur le rôle de l'épigénétique et sur les mécanismes, mais c'est là qui est intéressant. Alors, ce qu'elle précise dans ce chapitre, qui est important à mentionner, c'est une référence avec le dialogue qui a eu lieu entre Darwin et Lamarck, car la question qu'on peut poser ici et qui est très clairement posée par Edith Hurd et Marion Lucien Paul, c'est est-ce que ces modifications qui sont apportées par les mécanismes épigénétiques dans la toute petite enfance, est-ce qu'elles restent ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont transmises à nos enfants ? Eh bien, la réponse, elle est claire. En aucun cas, dit-elle, cette découverte et ces mécanismes signent le retour des thèses de Lamarck, et elle n'autorise pas à notre connaissance de transmission des caractères acquis. Comme l'écrivait le professeur Stephen Jay Gould, je cite toujours Edith Hurd, « C'est l'évolution culturelle humaine, contrairement à notre historique biologique, qui est lamarckienne par essence. Ce que nous apprenons en une génération est transmis directement par l'éducation et l'écriture. Les caractères acquis sont hérités dans les domaines de la technologie et de la culture. » Et il y a là donc un domaine complètement nouveau, passionnant, qui va justement faire le lien entre le déterminisme des mécanismes génétiques et tout ce qui se produit d'improbable dans l'apparition du jeune bébé dans le monde.
Il y a donc l'inné, l'acquis
et l'improbable. Et donc, on est dans Nature and Nurture en anglais et l'inné et l'acquis en français.
Le hasard et la nécessité.
Voilà.
Alors précisément dans ce bagage culturel qui est là où résident réellement les idées de Lamarck, il y a aussi toute une série de connaissances et de réflexions sur le prévisible, l'imprévisible, le probable, le possible. Et c'est bien sûr l'un des domaines de prédilection des mathématiques, puisque je n'étais pas très fort en mathématiques, mais je me souviens qu'un des domaines des mathématiques, ce sont les fameuses probabilités. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la vision de l'improbable par les mathématiciens ?
Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir vous éclairer, parce que je ne suis pas mathématicien moi-même, bien que je travaille beaucoup avec Daniel Benkin, qui est donc le grand mathématicien géomètre qui a rédigé un chapitre dans ce livre. Et nous travaillons ensemble sur le problème des géométries du cerveau. Mais dans son chapitre, qui est effectivement un chapitre très mathématique, mais en même temps dans lequel il prend soin de faire des résumés avec des concepts simples, il essaye de montrer comment les mathématiques, et en particulier les mathématiques développées par René Thom, qui avait fait, comme vous savez, la théorie des catastrophes, c'est-à-dire justement de ces événements qui sont improbables, comment les mathématiques de René Thom contenaient et contiennent encore des concepts importants pour relier deux aspects très importants de la vie, qui sont les probabilités et la forme. Thom était un aristotélicien. Vous savez que le concept de forme est extrêmement important et qu'au fond, nous sommes des formes. Nous sommes des formes par notre corps. Nos neurones ont une forme. Et par conséquent, nos villes ont une forme. Les feuilles ont une forme. Les plantes ont des formes. Et donc, le problème de la mise en relation des mécanismes d'oscillation, des mécanismes rythmiques, de la dimension temporelle du vivant ou de la physique, comme en physique quantique, et le concept de forme est un des grands défis des mathématiques, mais aussi aux frontières avec la physique, puisque vous savez que, par exemple, des grands mathématiciens comme Alain Kohn aujourd'hui tentent avec succès, d'ailleurs, de faire ce lien entre la géométrie et la physique. Donc le chapitre de Daniel Benkin se situe à cette frontière-là. C'est-à-dire qu'il essaye, dans les termes qui sont pour une grande part assez mathématiques, mais pour qui veut essayer de les décrypter, de lire, il pourra y brouter, pardonnez-moi le terme, mais comme moi-même, je suis capable de le faire seulement, des idées très générales. Parce que Daniel Benkin est un homme d'une grande culture. Il peut vous parler aussi bien de la philosophie d'Aristote que des philosophes du Moyen-Âge. Et donc, la façon dont il écrit ce chapitre est une façon qui, à la fois, présente les choses de façon très mathématique, mais aussi de façon plus générale. Et effectivement, il fait une critique des limites des théories de la probabilité pour montrer aujourd'hui comment une évolution de la théorie des catastrophes, mais en particulier de la topologie, permet de regarder aujourd'hui comment les mathématiciens peuvent regarder l'improbable. Et il essaye, au fond, de montrer dans son chapitre que l'improbable est partout. Et il me pardonnera si je dis une bêtise. L'improbable est partout, au fond, aux frontières des mathématiques. Et je voudrais lire juste une phrase de son texte à propos des réseaux bayésiens. Aujourd'hui, dans tous nos domaines, que ce soit en économie, que ce soit dans mon domaine de neurophysiologie, on utilise une équation, un modèle qui était dû au révérend Bayes, qui était un prêtre anglais. Et c'est une théorie des probabilités qui est extrêmement moderne et intéressante parce qu'elle met en rapport les événements passés, qui sont déterminés puisqu'ils sont passés, avec la prédiction de l'avenir. C'est-à-dire que c'est une formule dans laquelle, pour parler de la météo, par exemple, eh bien, c'est ce que font au fond les météorologues, ils mettent en relation ce qui s'est passé il y a 50 ans avec la probabilité. Et ces modèles bayésiens sont des modèles qui actuellement envahissent tous, mais qui sont quand même encore seulement, je dirais, si je peux oser, des modèles de la calcul de probabilité. Et Daniel Benkin, dans son chapitre, met de façon tout à fait intéressante la limite, en quelque sorte, de ces modèles bayésiens et probabilistes pour les confronter avec les théories les plus modernes de la topologie. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit dans ce livre et que je crois qu'on peut lire son chapitre en tirant, même si on n'est pas mathématicien, des idées. En tout cas, il fait travailler notre imagination.
Oui, l'idée, alors peut-être que je tape complètement à côté de ce qu'il a voulu nous dire, mais lorsque, pour reprendre vos termes, j'ai brouté ce chapitre, moi ce que j'en ai retenu, c'est qu'effectivement, il faudrait être capable, mais peut-être que finalement les probabilités, c'est un petit peu ça, si quelque chose de probable n'est pas quelque chose de certain. On a un peu de tendance à l'oublier dans un monde qui pense qu'en malaxant l'ensemble des données, on va arriver à des prédictions. Or, on n'en est qu'à des probabilités. L'improbable existe toujours, il est inscrit lui-même dans la notion de probabilité. Est-ce qu'il y a de ça ?
Oui, mais j'insiste, tout à fait. Mais j'insiste encore sur l'originalité qui est le but en partie du chapitre Daniel, c'est cette mise en relation qui est un des grands défis aujourd'hui des probabilités et des formes. Et voilà, je cite une phrase. « Quoi qu'il en soit, la relation entre singularité et probabilité se complique. Nous savions déjà que les ensembles de lois de probabilité jouent un rôle analogue à celui d'un déploiement. » Ce concept de déploiement, c'est-à-dire qu'il met en relation le concept de probabilité tel que nous le savons dans tous les jours, hein, avec cette idée de création d'une forme. Voilà. Maintenant, reste à chacun d'arriver à comprendre ce qu'il pourra.
Très bien. Mais écoutez, voilà, il nous a ouvert des marges de liberté, du
voilà.
coup.
Voilà, absolument.
Alors, précisément, vous avez expliqué que dans ces probabilités, il y a de ce calcul de probabilité, il y a un retour entre les données passées, dont on tire une prédiction et une vision de l'avenir, s'agissant de phénomènes physiques ou mathématiques, on comprend tout à fait ce raisonnement, car on est quand même sur un certain nombre de concepts qui sont invariants. Le positif est toujours le négatif, j'imagine, ce genre de choses. S'agissant de la biologie, ça se complique. Et là, c'est un des chapitres, à mon sens, cruciaux de l'ouvrage, puisqu'on nous explique qu'en matière de biologie, ce type de raisonnement ne vaut pas pour le simple fait que le vivant est variable par nature.
Absolument. Ça, c'est le chapitre donc, de notre collègue Giuseppe Longo, qui est au centre Cavaillès, et CNRS et à l'École normale supérieure à Paris, et qui est un des grands spécialistes, à la fois logicien, mathématicien, et qui est un grand connaisseur de la biologie, puisqu'il a déjà publié plusieurs livres, notamment avec Bailly, sur le vivant et les relations entre le vivant et justement ces processus de l'incertain. Donc Giuseppe Longo, dans ce chapitre, qui est le chapitre le plus long du livre, il défend en fait la thèse que le vivant, comme il le dit, les dynamiques temporelles du vivant, c'est-à-dire tout ce qui concerne les phénomènes liés au temps, puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nos cerveaux et le vivant en général est constitué essentiellement d'oscillateurs, de phénomènes qui travaillent avec une dynamique dans le temps, des phénomènes très très dynamiques, qui sont des phénomènes pour lesquels la physique a quelque chose à dire. Ces dynamiques temporelles, écrit-il, qui comportent des changements quant à l'espace des possibles ou espace des phases dans le sens de la physique. Alors, Giuseppe Longo utilise beaucoup dans tout son chapitre cette notion d'espace des phases qu'il est absolument impossible de résumer ici, et d'ailleurs je suis d'une compétence limitée pour cela, mais il faut retenir l'idée que les phénomènes du vivant sont pour une part explicables par des modèles, disons, empruntés à la physique, aux mathématiques et aussi aux sciences de l'ingénieur, dans lequel le processus de causalité n'est pas un processus simple avec une cause, etc., mais fait intervenir cette notion de phase, c'est-à-dire la relation entre des processus qui sont un peu décalés dans le temps. C'est ça la notion de phase. Et il y a donc dans la conception de Longo, l'idée fondamentale que le vivant est effectivement essentiellement non seulement variable, mais qu'il est très proche d'un certain nombre de phénomènes physiques dans lesquels l'incertitude, la variabilité sont le fondement finalement. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, comme il introduit, il met au centre de son raisonnement la temporalité. Cela signifie qu'on ne peut pas avoir un regard rétrospectif sûr, dans la mesure où à telle fonction que l'on remarquerait, et même éteinte dans notre corps, par exemple, on ne pourrait pas en déduire avec certitude la fonction qu'elle avait à l'époque où elle était active, car nous ne connaissons plus cette époque, par oui. exemple.
Oui, oui.
Et que donc, dans cet effet de causalité, il ne faut pas perdre de vue l'aspect relationnel avec l'environnement, mais que cet environnement s'étant évanoui, on est évidemment un peu dans le brouillard et qu'il faut l'accepter, c'est ça ?
Alors, oui, une autre chose qui est très importante dans la pensée de Longo, qui est originale dans ce livre, c'est la perspective d'évolution, qui est en filigrane dans le texte de l'éditeur. C'est-à-dire que Giuseppe Longo nous dit « Nous ne pouvons pas comprendre ce qui, aujourd'hui, a pris la forme des organismes vivants et de leur relation avec l'improbable, justement, si nous ne replonçons pas cela dans l'histoire complète du développement du vivant et dans sa relation avec le monde. » Et c'est aussi d'ailleurs dans cette perspective que nous travaillons au Collège de France depuis quelques années maintenant dans un groupe sur les relations avec l'homme et la nature et dans lequel nous avons, grâce en particulier à la contribution de nos collègues comme paléontologues, nous avons décidé d'inscrire toute notre réflexion dans cette perspective de l'histoire et de l'évolution. Longo nous rappelle aussi la contribution de grands physiciens comme Schrödinger, par exemple. Et c'est vraiment un des chapitres qui est qui illustre de la façon la plus profonde les relations entre la physique et la biologie, qui est vraiment aussi, comme nous le disions tout à l'heure concernant les mathématiques, qui est un des grands défis aujourd'hui. Autrement dit, pour ce livre qui n'est qu'un livre d'essai, c'est une réflexion que nous avons engagée avec nos amis. La proposition de Longo, c'est « Attention les amis, il faut que nous placions notre réflexion sur l'improbable dans le cadre de ce défi scientifique aujourd'hui de comprendre la biologie et en particulier la façon dont les organismes biologiques sont en relation avec l'imprévisible et la physique, dans ces façons et dans ces modes les plus avancés.
Et j'allais dire la métaphysique même. Car de ces considérations sur la matière et sur ce que nous sommes et sur notre destinée, car au fond, derrière tout cela, il y a cette idée. On l'a vu avec le dialogue entre Lamarck et Darwin que vous évoquiez, il y a un peu l'idée de destinée, c'est-à-dire que l'improbable, c'est aussi l'acceptation d'une part de hasard et que tout n'est pas programmé en vue d'une fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Ah ben je ne sais pas si je suis d'accord avec cela, mais nous ne sommes pas là pour en débattre. Je suis là pour vous dire ce qu'il y a dans le livre « Liberté de l'improbable
oui, ». Alors dites-moi, car il fait des intentions du côté de la philosophie aussi, ce livre.
Je voudrais attirer l'attention de l'acteur éventuel de ce livre sur le fait que Longo a aussi un passage sur la créativité. Parce que une des idées qui est derrière le travail avec Carlo Ossola, et le problème, c'est cette idée du fait que l'improbable, c'est la création. Et ça, la probabilité et son calcul n'est pas créatrice. Elle donne les chances que les choses se produisent, mais elle ne donne pas une occasion que les chances à des nouvelles choses se produisent.
Adviennent, oui.
Et donc, il y a en particulier un passage dans le chapitre de Longo sur la créativité qui, à mon avis, est extrêmement intéressant.
Mais cette question-là traverse le livre tout entier, d'ailleurs.
Comment ?
Cette question-là traverse le livre tout entier. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si, effectivement, les choses n'étaient que probables, si le probable se réalisait systématiquement, si tout était prévisible, effectivement, il ne resterait plus aucune marge de manœuvre. Le chercheur ne serait que quelqu'un qui décrit, et l'être humain en serait réduit simplement à une posture d'acceptation. Or, l'improbable lui redonne des marges de manœuvre.
Absolument. Et pour finir avec ce commentaire sur le chapitre de Longo, il a même un chapitre qu'il a intitulé « Inventer le futur ».
Oui, inventer le futur précisément, c'est la question qui est davantage posée par, par les philosophes que vous avez interviewés et aussi des artistes et les architectes. L'architecte est à la fois un scientifique et un créateur, un artiste. Comment l'envisage-t-il de leur côté ?
Alors, j'ai invité, et je suis content d'en parler ici, à participer à cette réflexion qui s'est faite dans un petit groupe. Hein, c'est un livre d'essai, de réflexion. Paul Andreux, un très grand architecte, qui est un confrère, puisqu'il était membre de l'Académie des Beaux-Arts, je le rappelle. Et pourquoi ai-je invité Paul Andreux avec Carlos Solà? C'est parce que, non seulement c'est un très grand architecte, mais parce que il a fait l'Opéra de Pékin, il a fait Roissy 2, etc. Mais parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer Paul Andreux. Et je lui avais dit, mais au fond, comment est-ce que vous concevez ces grands espaces? Il m'avait dit, écoutez, voilà, c'est très simple. Pour faire Roissy, nous avons travaillé pendant des mois et on n'y arrivait pas. Pour faire une des formes complexes, il faut des hyperboloïdes, des paraboloïdes, des surfaces mathématiques, on n'y arrivait pas. Et il a dit un jour, on n'y arrivait pas, je suis rentré dans mon bureau, j'ai mis une feuille de papier au mur et avec mon stylo, j'ai fait un geste qui est illustré dans son chapitre. Et ce geste, c'est la forme du toit de Roissy, du nouveau, je crois que c'est le F. Et il m'a dit, je suis rentré dans l'atelier, j'ai dit à mes collaborateurs, débrouillez-vous avec des formes mathématiques. C'est-à-dire qu'il a créé une forme improbable. Mais cela m'a intéressé, moi, comme physiologiste, car nous avons dans le cerveau des lois du mouvement qui sont des lois simplexes, qui simplifient les lois de mouvement. Et d'une certaine façon, Paul Andreux, en faisant ce geste créateur d'une forme nouvelle pour l'architecture, car il n'y avait jamais eu une forme comme celle-là, a créé, lui, un lien tout à fait remarquable entre les géométries dans notre cerveau qui font que nous faisons des gestes avec une forme qui est très particulière, qui répond à des lois de mouvement, et les contraintes de l'architecture. Et il nous a fait un petit chapitre, et je regrette beaucoup son absence, puisque Paul Andreux nous a malheureusement quittés il y a quelques mois, mais il a donné une contribution majeure, et c'est aussi le moment de rendre hommage au sculpteur Paul Day, qui a aussi participé à cette rencontre interdisciplinaire. Paul Day, D-A-Y, est un grand sculpteur français et qui fait des sculptures qui ont permis d'illustrer ce livre. Il n'a pas voulu faire de texte, mais il nous a très, très aimablement offert un certain nombre d'images de ces sculptures improbables qui illustrent le livre, de façon à ce que l'art soit présent dans ce livre, dans ses expressions. Et chaque chapitre est précédé par une image d'une des sculptures de Paul Day.
Écoutez, je suis content que vous parliez de l'art, car il y a une citation de la Poétique d'Aristote qui est constituée d'une adresse, c'est un conseil au poète. Oui. Donc Aristote dit ceci, et on ne l'attendait pas sur ce terrain, il dit au poète qu'il faut préférer l'impossible vraisemblable au possible non persuasif.
Voilà, alors là vous citez le chapitre de Emmanuelle Damblon, qui est une rhétoricienne, qui a la chaire de rhétorique à l'Université de Bruxelles, et qui, dans un livre d'ailleurs tout à fait remarquable, qui s'est appelé « L'homme rhétorique », essaye de refonder, dit-elle, une rhétorique plutôt aristotélicienne qu'une rhétorique qui, d'après elle, dominerait aujourd'hui plus platonicielle, plus formelle, axiomatique. Et il y a visiblement un débat aussi, qui moi m'a beaucoup passionné, au sein de la rhétorique, entre une approche très théorique, très axiomatique, comme nous avons dans beaucoup de domaines, y compris le mien, et une approche que Emmanuel Damblon souhaite promouvoir, qui est basée sur le faire, mais faire, pas le ferme, le métal, F-A-I-R-E, et qui effectivement est très et plus aristotélicienne dans sa, dans son approche. C'est une élève de l'école de Perelman, le juriste est belge, et elle, effectivement, a un chapitre dans lequel elle discute des concepts de la différence et des limites de la rationalité, du déni de réalité et de l'importance et de la place, finalement, de l'improbable dans la réflexion rhétorique.
Oui, c'est alors, si j'ai bien compris, elle nous demande de recourir à la fiction pour imaginer des mondes possibles, mais sans tomber dans ce qui est dans un travers qui serait très grave, qui est l'illusion. C'est-à-dire qu'il faut se réapproprier la fiction sans la confondre avec le réel, mais pour retrouver une capacité de créativité et d'imagination. Si vous voulez bien, je peux lire un passage de son chapitre.
Tout à fait. C'est pour ça qu'elle a une partie de son chapitre qui est consacrée à l'utopie. Mais l'utopie, non pas comme un désordre ou une dérive de l'imagination, mais l'utopie, justement, comme une forme de création, finalement. Et elle a un lien aussi extrêmement intéressant avec l'ensemble des textes concernant les droits de l'homme. Vous savez qu'ils sont très anciens, puisqu'il y a eu des textes concernant les droits de l'homme depuis les textes hébraïques, en passant par les textes de la Révolution et les textes plus récents, modernes, auxquels René Cassin, qui d'ailleurs était mon grand-oncle, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement intéressé par ces questions-là, d'autant plus que je travaille sur les questions du droit de l'enfant actuellement. Et donc elle montre dans la fin de son texte comment il faut aller dans la lecture qu'on fait des préambules de ces grands textes normatifs qu'on peut interpréter comme des textes uniquement normatifs, comment dans les préambules il y a toujours une place de fait à l'improbable, au non déterminé. Et c'est effectivement
oui, bon,
une contribution
très
intéressante.
À propos de la déclaration de 1948, l'article 1er est ainsi formulé. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Elle explique très bien que, évidemment, ce n'est pas une description de la réalité.
Voilà.
Car sinon, on serait dans l'illusion.
Et
ça aurait des effets absolument catastrophiques. Mais que c'est un exercice, justement, fictionnel, où on imagine un monde possible qui peut advenir, et que donc cet exercice d'imagination, ce transport par la force de l'imagination, finit par avoir un effet bénéfique, à produire des effets dans le monde réel, et que donc, voilà, c'est l'illustration même du recours à la fiction, tout en la distinguant bien sûr de l'illusion. Peut-être puis-je lire un rapide extrait de son chapitre ?
Bien sûr.
Merci. Le vraisemblable, donc toujours à propos de de l'impossible vraisemblable à aristotélicien, le vraisemblable est une vision poétique du monde qui s'assume comme entièrement fictionnelle et qui a pour visée de stimuler l'imagination. Il s'agit là d'un exercice qui sollicite en nous la fonction poétique et qui, je crois, comporte un intérêt essentiel pour la vie politique que nous ne percevons plus. Exercer la vraisemblance, c'est précisément s'habituer au champ des possibles et finalement apprivoiser le réel. Loin de nous priver de notre lucidité, une fréquentation assumée de nos facultés d'imagination nous habitue à éprouver l'indéterminisme et à nous résoudre à l'incertitude. C'est un beau texte qui nous incite à sortir justement de cette idée qu'il n'y aurait qu'une seule voie possible. Et c'est peut-être une des choses dont nos sociétés souffrent le plus aujourd'hui, c'est de penser qu'il n'y a pas d'alternative.
Merci. Alors effectivement, la réflexion que fait Emmanuel Damblon est aussi liée, et peut-être liée à la réflexion que fait Carlo Ossola lui-même, dans son chapitre qu'il a intitulé en partie « Provando e riprovando », c'est « En prouvant et en réfutant ». Et le chapitre de Carlo Ossola est une très belle réflexion sur l'improbable. Il commence d'ailleurs par une citation de Yves Bonnefoy, le poète. Je dédie ce livre à l'improbable, c'est-à-dire à ce qui est, à un esprit de veille, aux théologies négatives, à une poésie désirée de pluie, d'attente et de vent. C'est une citation du livre « L'improbable et les autres essais » d'Yves Bonnefoy. Et Carlo Ossola nous fait bien sûr une analyse approfondie sur le traitement des différents concepts de probable, improbable, probus, etc., en particulier par les grands auteurs du Moyen-Âge, autour de cette période critique d'auteurs comme Duns Scott, etc., où il y a eu une réflexion de remise en cause, en quelque sorte, de la pensée trop rigidement scolastique. Et il a donc une réflexion qui est fondamentale. Il termine le livre, mais sur un point d'orgue, à mon avis, qui nous permet de réfléchir un petit peu avec une vue d'ensemble à tout ce qui a été discuté dans ce livre. Il faut noter aussi que nous devons à Brian Stock, qui est un professeur canadien philosophe, grand spécialiste de saint Thomas d'Aquin, un tout petit chapitre, mais très important, qui cherche justement chez les Grecs anciens et chez les pré-socratiques plus particulièrement, quels sont ceux qui ont pu proposer des notions sur la relation entre le probable et l'improbable.
Monsieur, je vous remercie d'avoir parlé de l'univers, car l'univers, finalement, est peut-être la meilleure... L'existence de l'univers est peut-être la meilleure preuve de l'importance de l'improbable, car, oui, nous le savons, notre univers, la création telle qu'elle existe, est elle-même improbable, et pourtant, elle est. Voilà qui nous incite décidément à respecter et explorer cet improbable aux limites infinies. Je rappelle les références de l'ouvrage « Les libertés de l'improbable » sous la direction d'Alain Berthoz et Carlo Ossola aux éditions Audi Jacob.